Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur les ondes de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Alors bienvenue dans l'Astromag, votre rendez-vous astronomique mensuel en partenariat avec l'Observatoire astronomique d'Aniane et l'asso donc Ciel et Astres. Bonjour Didier.
Bonjour Patrick.
Donc tu m'accompagnes aujourd'hui pour parler d'astro.
Voilà, c'est, on fera une petite balade dans le ciel.
Alors le sujet d'aujourd'hui, puisque c'est la dernière émission de la saison, on reprendra sûrement en septembre, mais pour le moment on va prendre des vacances, alors nous non, hein, parce qu'on va travailler plein pot, je dirais tout l'été, et on va parler justement, puisque les personnes pourront flâner un petit peu le soir, de ce qu'on peut observer durant ce prochain été. Mais avant d'aborder ce sujet, vous avez tous entendu parler de ces fameuses aurores. Alors, on les appelle les aurores boréales.
En l'occurrence, ce sont exactement, le terme précis, ce sont des aurores polaires.
Et
parce
oui,
que, voilà. En fait, ces aurores surviennent aussi bien au pôle nord, donc qu'on appelle aurore boréale, que le pôle sud, que sont les aurores australes.
Je suis bien d'accord, et vu la taille du Soleil par rapport à la Terre, on comprend bien que quand il y a un flux de particules, la Terre les subit de plein fouet aussi bien du côté nord que du côté sud.
Voilà, absolument. Voilà. Absolument. Pourquoi on parle d'aurore boréale? Tout simplement parce que sur la zone autour du pôle sud, la densité de population étant beaucoup plus faible du fait de l'absence de Terre,
oui.
Elles sont très rarement visibles.
Oui, c'est vrai que pour
se
rendre en Antarctique, c'est quand même plus pointu.
Voilà, mais tout autant, elles existent et elles sont présentes.
Oui, alors c'est pour ça justement que j'avais entendu dire, et j'avais lu justement qu'ils parlaient d'aurores boréales et que ça avait été vu à La Réunion aussi. Et du coup, je me suis dit, ça ne doit pas être des aurores boréales, mais du coup des aurores australes,
absolument,
visibles en Afrique du Sud et
absolument
à La Réunion.
Alors, parlons un moment de l'hémisphère sud. Effectivement, les aurores australes, on les voit principalement en Nouvelle-Zélande, en
oui,
Afrique du Sud,
oui,
en Australie.
Oui.
Et effectivement, au mois de mai, de par l'intensité d'une éjection de plasma du Soleil, qui a été particulièrement puissante, ça a été observé tout à fait par hasard par un photographe professionnel qui est également amateur d'astronomie, qui, à 1h du matin, s'est positionné pour photographier la Voie lactée. Et aux surprises, il découvre qu'il est face à une aurore australe.
D'accord. Alors,
et ça a été le seul témoin. Et il a dû prouver l'authenticité parce que les gens disaient que ça provenait,
oui,
de l'intelligence artificielle. Il avait tout ce qu'il fallait au niveau de ses instruments pour prouver l'authenticité de ses clichés.
Alors c'est bien ce que tu dis là, parce que justement moi j'étais surpris aussi, parce que ce 10 mai dernier, j'étais en train de faire une soirée à l'observatoire. Classique, donc on regardait ce qu'on appelle les objets du ciel profond, et puis d'un seul coup, avec les deux personnes qui étaient là, on voit une espèce de lueur rouge apparaître tout doucement sur l'horizon nord. Alors on est tellement prévenu que ça puisse arriver à nos latitudes, même si on sait que c'est possible, hein, attention. Au début, on s'est dit, tiens, ça doit être un incendie de forêt qui se déclare. Mais bon, voilà, c'était un peu tôt quand même dans la saison. Hein. Il avait plu un peu avant, donc on s'est dit, ça paraît quand même improbable. Et puis, c'est vraiment monté en intensité. Après, il a commencé, on a vu des espèces de rayons. C'était rouge, un peu vert à la base. Bon, après, moi, ayant déjà observé des aurores, je me suis dit, c'est bon, on y a droit. Mais quand même, la surprise était très, très grande de voir ça.
Vous avez eu la chance de les photographier.
Et du coup, alors on les a photographiés, vu qu'on n'était pas prévenus, on n'avait pas d'appareil photo mis sur trépied.
De qualité, mais...
On a pris ça avec nos téléphones portables. C'est étonnant le résultat que ça a donné. Vous pourrez aller le voir sur notre page Facebook de l'Observatoire. On les a mises. Et vous serez vraiment étonnés de l'intensité de ces aurores. Alors juste pour l'observation, après tu pourras peut-être expliquer le phénomène. On observait de loin, j'imagine, je pense que les aurores qu'on a observées, nous, n'étaient pas au-dessus d'Aniane, mais étaient bien plus au nord, style au nord de la France, même peut-être au-delà. Mais vu l'altitude à laquelle ça commence, on observait vraiment au ras de l'horizon la partie verte, et au-dessus, mais vraiment en majorité, je dirais les deux tiers, la partie plutôt rougeâtre.
Oui,
alors, est-ce que tu pourrais éventuellement nous donner, nous éclairer
bien
sur
sûr.
Ce phénomène ?
Alors, deux choses. Il faut savoir que c'est une combinaison de deux événements. D'abord, c'est l'activité solaire qui est à l'origine de ce résultat. Ce sont les éjections de plasma qui produisent ce qu'on appelle également des vents solaires. Donc, ce sont des masses, d'ions,
des particules chargées.
De particules chargées qui avancent à plusieurs millions de kilomètres heure dans l'espace.
Mmh.
Et donc, lorsqu'il y a une éjection de plasma en direction de la Terre, ce plasma met environ 3 jours pour arriver à hauteur de notre planète. Et nous, on a la chance d'être protégés principalement par deux choses. La chose la plus importante, c'est le champ magnétique terrestre. C'est ce qui va dévier toutes ces particules de plasma. Et en deuxième lieu, c'est l'atmosphère qui est beaucoup plus fine. Il faut savoir que le champ, ce plasma, s'il n'y avait pas le champ magnétique terrestre, il n'y aurait plus de vie.
C'était ma question.
Ça détruirait tout instantanément de par la puissance.
Comme sur la Lune, en fait. Hein,
voilà.
Ouais,
aucune vie possible après le passage d'un vent solaire de cette intensité.
D'accord. Okay.
Voilà. Donc, ce champ magnétique terrestre, en fait, qui est face, la partie qui est face au Soleil, donc lorsqu'on est de fait face au Soleil, c'est la partie jour sur Terre. Ce champ magnétique terrestre est un peu, on va essayer de visualiser, un peu écrasé par l'arrivée compressée par ce vent solaire qui est très intense. Et à contrario, la partie nuit. Là où se trouve le champ magnétique terrestre sur la partie nuit de notre planète, elle est étirée, étendue.
Vers l'arrière, donc.
Vers l'arrière. Et ça s'étend jusqu'à presque 300 000 km, donc presque la distance Terre-Lune. Ça va très, très loin.
Mmh. Okay, ouais.
Et une partie, j'essaye d'être le plus explicite parce que ce n'est pas évident sans images.
Oui, sans schéma.
Sans schéma,
vrai.
Oui. La partie de ce vent solaire qui arrive à l'extrémité de son champ, du champ magnétique côté nuit, en fait, une partie de ces ions, de ces particules, va revenir vers la Terre.
Un effet boomerang.
Va faire un effet boomerang en suivant les lignes de courbure du champ magnétique terrestre.
Ok.
Voilà. Il faut savoir que ce qui atteint l'atmosphère terrestre, c'est environ 2% de la quantité totale de cette énergie.
Oui.
Voilà. Donc, comment on a ces couleurs dans le ciel, en fait, il faut savoir que la hauteur, si tu veux, de l'atmosphère terrestre va du sol jusqu'à plus de 1000 km en altitude.
Oui.
Sachant qu'au-dessus d'une certaine altitude, les particules d'oxygène, etc., sont, je veux dire, c'est très très faible.
Oui, c'est plus respirable. Déjà, à 1000 mètres, on a du mal à respirer. Alors,
complètement.
Ouais.
Et en fait, c'est l'interaction de ce vent solaire avec les particules d'oxygène, si tu veux, qui génèrent ces couleurs.
D'accord.
En fonction de
l'oxygène et l'azote, hein, c'est ça.
L'oxygène et l'azote sur une certaine, effectivement, altitude.
Ouais. Mmh.
Voilà.
Okay.
C'est lorsqu'on est au-delà de 180 km d'altitude, c'est principalement de l'oxygène et on a des teintes qui sont plutôt rougeâtres.
Ouais.
Voilà. Mmh. Entre 100 et 180 km, on a une densité d'oxygène plus importante et l'interaction produit cette couleur verdâtre et en dessous de 100 km, et ça descend jusqu'à 75 km d'altitude, mais pas plus bas, on arrive sur des teintes un peu rose-orangées.
Oui, c'est ce qu'on observe quand on voit les photos
en Laponie. Ce que nous, sous nos latitudes d'Europe, au niveau de la France, de l'Italie, de la Grèce, etc., ce qu'on voit, en fait, ce sont les particules qui sont plutôt en altitude.
Oui, d'où le vert sur l'horizon assez bas.
Ouais. Voilà, tout à fait, puisque de par, désolé pour les platistes, mais de par la courbure
de la Terre,
à un moment donné, l'horizon va cacher La basse altitude. Et donc, on va voir finalement que ce qui est à une altitude assez élevée.
Donc, je dirais que par rapport même à des observateurs qui seraient situés sous l'aurore, ceux-là, en gros, vont voir quasiment que le vert hein, quand on est en dessous.
Oui.
Alors que nous, vu qu'on était loin en tant qu'observateur, on avait...
En fait, c'est une tranche que vous voyez.
Et on avait les deux, en fait.
Voilà.
On avait les deux. Et alors, j'ai cru comprendre, parce que moi... Bon, pour ceux qui connaissent, hein, l'aurore démarrait du ras de l'horizon nord hein, et ça allait, la couleur, la teinte rouge finissait quasiment au niveau de l'étoile polaire. Hein, on était donc sur 45 degrés d'amplitude, ce qui était quand même énorme.
Oui,
énorme.
Puisque quand je dis que ça démarre à 180, ça monte
cette 500,
colorisation
ouais.
jusqu'à 500 ou 600 km d'altitude.
Ouais.
C'est très élevé.
Ça fait vraiment un mur, en fait.
Oui. Hein,
c'était vraiment impressionnant.
Oui,
alors, j'ai juste précisé, si tu me le permets, hein,
oui.
c'est le concours de circonstances, parce que le phénomène, voilà, c'est un phénomène qui reste exceptionnel, mais ça peut arriver, on le sait. Il faut juste plein de conditions pour qu'on puisse l'avoir. Alors, moi, j'observe le soleil assez souvent et j'avais justement photographié quelques jours avant ces fameuses taches solaires qu'on peut voir tout le temps. Et il y avait un groupe qu'on suivait, un groupe de taches. Alors, les taches solaires, ça reste quand même, ça peut rester plusieurs semaines. Et le soleil tourne sur lui-même, hein, en gros, en 25 jours. Hein, bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Et ce groupe de taches, je l'ai vu arriver, moi, comme ça, sur le côté.
Oui.
Et puis, à un moment donné, je l'ai pris en photo. À un moment donné, je l'ai observé quasiment tous les jours. Il s'est retrouvé face à nous. Alors, on s'est dit, bon, ben voilà, ça arrive. C'est à ce moment-là qu'il y a eu donc une éruption solaire, quand il était face à nous, à quelque chose près. Et puis, ben, ça n'a pas loupé. Hein. Deux ou trois jours après, on a eu droit à ces fameuses aurores.
Oui, tout à fait, parce que les taches, en fait, sont la manifestation visible, justement, de ces fameuses éjections
voilà, oui.
coronales.
C'est là que ça peut partir que de là.
Voilà.
Ouais.
Et la tache étant située face à nous, forcément, l'éjection se produit donc vers nous.
Voilà. Mais il faut qu'elle ait lieu, parce qu'on peut
ah,
très bien...
Oui,
Moi, j'ai
fait.
Encore observé le soleil ce matin avant de venir. Il y a des taches tournées vers nous en ce moment,
oui.
de nouveau. Mais est-ce qu'il y aura une éjection de masse coronale à ce moment-là?
Pour autant, non. Alors, on peut, voilà, visuellement, là, en fait, on détermine la variation de température de par le changement d'intensité de la tache, à l'intérieur de la tache elle-même. Et donc, lorsqu'on sait qu'il y a une forte variation de température, donc une forte différence au niveau de la couleur de cette tache,
oui.
on peut...
Prédire oui.
l'éjection.
Mais ça reste de la
Mais
probabilité.
Voilà,
ouais.
parce qu'en fait, la validité de l'arrivée d'un vent solaire se fait via un satellite géostationnaire
oui.
Qui détecte donc l'arrivée de ce vent solaire et cette prédiction, elle est de l'ordre de 1 heure.
Ah oui D'accord.
Donc, on a très peu de temps.
Ouais.
Alors, l'avantage, c'est que pour les gens qui sont un petit peu intéressés, eh bien, aujourd'hui, outre, bien sûr, vous pouvez, il y a quelques sites qui prédisent, qui donnent toutes ces informations sur Internet, mais également sur votre smartphone, il y a des applications. J'en connais deux ou trois. Moi, j'en ai installé une sur mon téléphone qui vous prédisent justement l'arrivée et l'intensité de l'activité. Il y a quelques références, quelques indices de référence qui permettent de prédire la probabilité qu'on est dans une bonne phase d'activité oui et d'arrivée éventuellement d'une aurore.
Alors pour ceux qui ont loupé celle de début mai, faut pas vous avez encore vos chances puisqu'il faut savoir que c'est pas ça va ça peut se produire encore jusqu'à la fin de l'année puisqu'on est dans un pic d'activité du soleil. Et que, voilà,
Tout à fait.
On aura peut-être la chance d'avoir cette configuration se reproduire
voilà,
dans le ciel tout au long de l'été, tout au long de l'automne, voire encore l'hiver, peut-être même en début d'année prochaine, jusqu'à ce que le pic redescende. Voilà,
voilà juste pour rappel, le soleil a des pics d'activité tous les 11 ans. Et là, on arrive dans cette période depuis début 2024 et jusqu'à fin 2025. Donc, ça veut dire qu'en fait, cet hiver... Alors, pourquoi l'hiver? Parce que tout simplement, les nuits étant plus longues,
on
augmente nos chances de voir une aurore
tout à fait. Ouais.
apparaître.
Oui. Ouais,
voilà,
tout
simplement. Tout simplement. Et tout à l'heure, par rapport à mes explications, une chose que je n'ai pas dite, mais qui de fait est la conséquence de ça, c'est que l'aurore, ici pour nous, donc on va parler d'aurore boréale, hein, pour simplifier,
oui.
Eh bien, on la voit de nuit tout simplement parce que, comme je l'ai expliqué, le champ magnétique terrestre,
oui, la partie qui s'étire,
s'étire se trouve du côté nuit de la Terre.
À l'opposé.
À l'opposé. Et donc, ces particules qui reviennent, eh bien, elles reviennent dans la partie nuit. Mmh. Voilà.
Oui, c'est
donc
logique.
C'est logique et mécanique. Hein, voilà. Et puis, de jour, c'est tellement peu intense qu'on ne le verrait pas.
Ok, bon, on va clôturer. Voilà. Donc c'était important quand même d'en parler parce qu'on entend beaucoup de choses, hein, même des fois des choses qui ne sont pas forcément justifiées. Mais voilà, donc pour les aurores, armez-vous de patience. Voilà, avec un peu de chance, on aura peut-être l'occasion d'en voir d'autres au courant de l'année.
Très probablement cet hiver. Oui.
Voilà, avant d'aborder le prochain sujet, donc on va parler de ce qu'on va pouvoir observer cet été. Alors, vous êtes toujours sur les ondes de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud, toujours sur l'Astromag, votre rendez-vous astronomique mensuel, avec l'Observatoire astronomique d'Aniane. Bon, alors, sortons nos télescopes, ou pas, parce que tout le monde n'a pas forcément de télescope à la maison, mais déjà à l'œil nu, on peut observer de très belles choses dans le ciel, ou avec une paire de jumelles.
Voilà. Alors,
Didier, tu es donc un astronome amateur.
Oui, tout à fait. J'ai la chance d'avoir un petit télescope, hein, ce qu'on appelle un Newton.
Oui, alors c'est
tout simplement,
c'est un 200 quand même. Hein,
Oui, c'est un... Alors, quand 200, il s'agit du diamètre d'ouverture.
Ce qui est quand même pas mal.
Voilà, ce qui est correct.
Ouais, voilà.
Et ce qui permet d'entrer suffisamment de lumière, justement, pour pouvoir observer. Alors, dans un télescope, on observe principalement des galaxies.
Oui. Alors ça, je dirais que c'est peut-être le plus difficile pour moi.
Ce sont des tâches.
Ouais. Ça dépendra surtout de la qualité du ciel. On en reparlera.
Voilà. Les amas stellaires.
Ça, c'est ce qui est plus facile, moi, pour moi.
C'est ce qui est beaucoup plus facile.
Ouais.
Et c'est assez...
bluffant.
Assez bluffant, assez fascinant.
Ouais, oui, tout à fait. Ouais.
Tout à fait. Et quelques nébuleuses.
Oui, c'est vrai. Il y en a des belles l'été, on va en parler justement.
Quelques nébuleuses qui sont effectivement très intéressantes à observer. Donc, mais après, il faut être bien conscient d'une chose, c'est que pour avoir une belle observation, on est malheureusement obligé, enfin, plus le diamètre de l'instrument est grand, plus on fait rentrer de la lumière et plus on a des chances de faire de belles observations.
Ben, c'est pour ça que je compare un télescope, hein, je donne toujours comme définition simple qu'un télescope est un entonnoir à photons.
Oui.
Voilà, donc plus l'entonnoir est gros, ben, plus de lumière on pourra canaliser et mieux on se remplira l'œil. En gros, c'est ça. Alors, on peut observer aussi des planètes, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, il fallait être vraiment couche-tard pour pouvoir les observer.
Oui, absolument.
Je parlerai du retour des planètes phares, hein, Saturne, Jupiter, un peu plus tard. Mais c'est vrai que pour l'instant, elles restent compliquées à observer. Et puis, n'oublions pas la Lune. Alors, la Lune, c'est comme l'alcool, avec modération.
Alors la Lune, effectivement, je suis parti sur l'observation de ce qu'on appelle les objets du ciel profond.
Oui,
hein, dans un premier temps.
Tout à fait.
Mais en fait, ce qu'il y a de beaucoup plus évident à observer, c'est en tout premier lieu la Lune.
Oui.
Alors attention, la Lune est un vrai phare. Et il faut et lorsque plus l'intensité de la Lune augmente, hein, plus on monte dans les quartiers pour arriver à s'approcher de la pleine Lune,
oui,
plus on est obligé d'utiliser des filtres de plus en plus importants pour diminuer l'intensité de la lumière.
Et oui. Oui.
Sinon,
c'est pas dangereux, mais c'est désagréable.
C'est très désagréable.
Ouais,
c'est
très
désagréable et de fait, on n'en profite pas.
Alors justement, un petit conseil pour observer la Lune, contrairement à pas mal de personnes qui le pensent, hein, on le voit à l'observatoire, il faut éviter la pleine lune.
Complètement.
Parce que pour deux raisons. Ben déjà, le jour de la pleine lune, ben la lune, en fait, elle est éclairée de plein fouet par le soleil. Donc, on n'aura pas d'ombre, de lumière rasante pour mettre en évidence les reliefs lunaires, les cratères. Donc, elle est toute blanche. Alors, c'est joli à l'œil nu, en fait, mais au télescope, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et en plus, ben, comme elle est très lumineuse dans le ciel, comme tu disais, c'est un phare, eh ben, elle nous empêchera de pouvoir observer justement les objets du ciel profond dont tu parlais, nébuleuses, galaxies, et les amas s'en sortent à peu près bien, mais c'est tout, on va dire.
Je dirais que pour la Lune, pour la pleine Lune, il s'agit simplement de repérer au niveau cartographique les différents
Oui,
endroits, cratères,
les mers,
les
ouais, ces
mers.
fameuses mers,
Voilà,
ouais.
ça a quand même un certain
Oui, bien
intérêt.
sûr, oui.
Mais il faut reconnaître que ce qu'on appelle les premiers et derniers quartiers de Lune. Alors, premier quartier, c'est plus intéressant parce que c'est plutôt en début de nuit. Dernier quartier,
Plutôt en fin de nuit.
c'est plutôt en fin de nuit. Donc, soit des gens qui ne se couchent pas, soit des gens
Oui.
qui sont insomniaques.
Oui, ouais.
Voilà.
Ouais.
On a de très beaux aspects. Le relief avec les ombres se détache
Ah oui,
complètement.
c'est ce
Et
qu'on
c'est
appelle
vraiment
le Terminator,
le
là, cette
terminateur,
limite.
absolument. C'est la limite entre justement cette zone entre l'éclairage et la partie sombre. Et c'est absolument magnifique.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, j'aime beaucoup observer la Lune, attention, hein. Mais quand je dis qu'il faut l'observer avec modération, c'est en fait il faut bien choisir ses périodes. En
Voilà.
gros, c'est ça. Alors, je dirais éviter, je dirais, le jour de la pleine Lune et peut-être un ou deux jours avant et un ou deux jours après, parce qu'on a très peu de ce fameux Terminator. Donc,
Oui.
voilà. Mais autrement dit, on se débrouille toujours, hein, de toute façon. Voilà.
Et l'autre, et les derniers objets célestes qui sont donc très intéressants à observer, ce sont les planètes.
Oui.
Alors, actuellement, la position des planètes, c'est ce qu'on appelle sur le cercle de l'écliptique, c'est-à-dire le cercle sur lequel sont situées les planètes autour du Soleil, fait que on a beaucoup de mal en ce moment à les observer.
Oui.
Mais d'une manière générale, avec une petite lunette, un télescope comme le mien, bien sûr,
Ah
mais ou une
oui.
petite lunette de base,
Oui.
avec un certain grossissement, on voit quasiment la majorité des planètes,
Oui.
sans aucun souci.
Alors
Alors
je...
attention, ce sont des petits points, mais bien assez bien détaillés
Oui.
et qui attirent vraiment la
Ouais,
curiosité.
on
C'est
va se
très
tromper.
intéressant.
Moi, ça me rappelle toujours un souvenir. La première fois que j'ai observé dans un 114-900, donc un télescope beaucoup, beaucoup plus petit que celui que tu as actuellement, je suis tombé sur Saturne par hasard. Et voilà, on voit les anneaux. C'est une petite bille, mais on distingue vraiment les anneaux autour. On ne
Tout
peut
à
pas se
fait.
tromper.
Alors, justement, à propos des anneaux de Saturne,
Oui.
pendant une bonne année, on ne va quasiment pas les
Eh
distinguer.
oui, parce qu'ils vont se présenter sur le plan équatorial de la
Voilà,
planète vers nous et
voilà.
du coup ils
Ça
disparaissent.
va être à la limite un fin disque pour les plus forts grossissements, on le devinera, sinon on ne le verra quasiment pas.
Alors ça, c'est pas de chance pour ceux qui découvrent Saturne ce jour-là,
Oui.
parce que c'est que tous les 14 ans quand même, hein, faut le rappeler. Donc
Oui.
voilà.
C'est
Alors,
un.
juste pour préciser, tant que j'y pense, pour observer Saturne, soit vous levez vraiment très tôt le matin, style 3h30, 4h. Hein. Là, du coup, ben, vous pouvez l'avoir sur l'horizon est. Mais si on est plus raisonnable, on va dire qu'il faut attendre, allez, à partir du mois d'août, voire mi-août, et puis tout l'automne pour observer Saturne dans de bonnes conditions. Et puis, ben, pour Jupiter, ça sera encore un peu plus tard. Hein, je dirais vraiment, Jupiter sera dans des conditions vraiment idéales pour l'automne prochain. Voilà. Alors, on va parler de ce ciel profond, puisque tu le mentionnais. Les amas, alors moi j'aime beaucoup, c'est les amas stellaires et notamment les amas globulaires. Alors
Oui.
je vais juste te rappeler qu'on va pas parler des objets qui sont vraiment des petites taches, on va parler des objets les plus brillants qu'on peut retrouver dans le catalogue de Charles Messier, les fameux M,
Les
M1,
fameux M,
M2 jusqu'à
voilà.
M110. Alors
Voilà.
déjà, si on les fait tous, ceux-là, c'est pas mal. Hein. C'est vrai, il y
C'est
a de
pas
quoi
mal parce
faire.
qu'il y en a qui sont vraiment pas évidents à observer, puisqu'ils sont. La difficulté d'observer le ciel est souvent plus souvent liée à la condition météorologique du
Oui,
moment,
oui, oui, oui.
hélas,
Oui.
parce que certains objets sont visibles qu'une partie de l'année. Et si malheureusement la météo n'est pas avec nous,
Ou
bien
une grosse lune,
on sera ou une grosse lune,
on
effectivement,
passe à côté.
qui éclaire beaucoup trop le ciel pour qu'on ait assez de contraste
Oui.
pour pouvoir bien observer l'objet en question, eh bien effectivement on passe à côté et il faudra peut-être attendre quelques mois, voire l'année suivante.
Oui. Alors, je vais moi vite quand même déjà mentionner le fait qu'on peut voir dans un très bon ciel, hein, c'est-à-dire qu'il faut s'éloigner des lumières, hein, des villes et des villages, sans lune, dans une nuit sans lune, déjà on voit bien la Voie lactée et on peut observer déjà certains de ces objets Messier à l'œil nu. Alors, je pense notamment à la nébuleuse de la Lagune, M8, Quand on le sait, on le voit vraiment à l'œil nu. Ça fait une petite nébulosité comme ça, juste sur la droite du Sagittaire. Alors, il faudra repérer évidemment ces constellations sur une carte du ciel. C'est vraiment un très bel objet à observer. Un peu plus tard, hein, au mois d'août, vous pouvez aussi voir à l'œil nu la fameuse galaxie d'Andromède. Elle se voit vraiment à l'œil nu. Donc, vous voyez, il y a des objets déjà comme ça. On peut déjà faire un petit tour, se faire plaisir en observant le ciel comme ça. Et alors, de suite, avec une paire de jumelles, il y a vraiment beaucoup d'objets qui deviennent accessibles. Il faut juste se stabiliser. Voilà. Parce que les jumelles, le problème qu'on a, c'est qu'on a tendance à trembler, même si on n'a pas bu de café. Et du coup, le fait de se mettre sur un trépied photo,
Ce que
ça
je
suffit.
conseille, ce que je conseille toujours aux gens, un petit trépied, un trépied photo, hein, qui soit un, qui puisse, pas un modèle mini, mais qui arrive à hauteur d'homme, hein, je dirais. Et
Ou de femme.
avec ses. Oui, tout à fait. Bon, on va dire un trépied qui monte à 1,50 m, voilà,
Voilà.
avec la petite tige d'extension. Et surtout, il existe un petit accessoire qui coûte, allez, on va dire une dizaine d'euros. Qui est en forme de L, en fait, qui se fixe sur le trépied photo et que l'on visse entre les deux oculaires des jumelles et qui permet justement d'avoir des jumelles stabilisées. Voilà. On le fixe sur le trépied photo et on est tranquille, on ne se fatigue plus à l'avoir à bout de bras.
Alors ça permettra de... Parce que j'assure vraiment que d'observer le ciel avec des jumelles, ça peut vraiment être très très bien. Vraiment. C'est très très beau.
Personnellement, j'ai commencé comme ça il y a près une
Voilà.
quarantaine
Il
d'années.
ne faut pas le négliger, il ne faut pas se dire, ouais, il faut un gros télescope, plus ça sera gros, tout ça. Non, vraiment. C'est plus facile déjà, parce que s'il y a de la turbulence, s'il y a du vent, les jumelles grossissent pas beaucoup et ça vous donne vraiment une vision du ciel, même pour apprendre à se repérer, tout ça. C'est vraiment très très sympa. D'ailleurs, en famille, on peut aussi le soir. Il n'y a pas que le soir des étoiles filantes, hein, tu vas peut-être en parler après. Déjà, on peut s'amuser à s'allonger, hein, sur une chaise longue comme ça, et puis repérer les constellations du ciel. C'est vraiment une bonne démarche quand on veut démarrer en astronomie et faire de jolies observations.
D'autant plus que ça permettra de s'orienter rapidement lorsque l'on s'intéressera aux différents objets
Et qu'on
pour pouvoir
aura
les situer.
un télescope pour son anniversaire.
Voilà.
Alors. Le temps passe vite. On va essayer de donner quelques dates. Alors, juste avant, je vais donner une petite liste d'objets à faire pour les astronomes qui nous écoutent et qui débutent. Alors, pour moi, l'objet phare du ciel d'été, ça sera évidemment M13, le grand amas
Le grand
d'Hercule.
amas d'Hercule.
Ça, c'est une valeur sûre, relativement facile à trouver. Dans les objets que j'aime bien, facile à faire, il y a une étoile double qui s'appelle Albireo. C'est la tête du cygne. Alors c'est très joli esthétiquement parce que quand on le regarde à l'œil nu, on voit qu'une toute petite étoile, vraiment. Et quand on regarde cette étoile avec un télescope, elle se dédouble, cette
Voilà.
étoile. Et on en a une qui est plutôt bleue et
Et
une qui
l'autre un
est
peu jaune.
plutôt jaune. Donc c'est vraiment très esthétique à voir dans le ciel. J'ai parlé tout à l'heure de la fameuse nébuleuse de la Lagune. Alors c'est très joli à faire au télescope aussi, puisqu'elle se voit déjà à l'œil nu. Imaginez dans un télescope ce que ça donne. Ce genre de nébuleuses, ce sont des nébuleuses, en gros, j'appelle ça des pouponnières d'étoiles, hein, des endroits dans l'univers et les galaxies où naissent des étoiles. Je parlerai aussi de M57, peut-être, c'est très bien, c'est un objet un peu différent, c'est une nébuleuse planétaire. Alors le mot planétaire trompe un peu parce que ça n'a rien à voir avec des planètes, mais c'est plutôt, on dira, la mort d'une étoile. Tu as des idées, peut-être?
On est plutôt vers la. Je pensais à M42 également,
Ah ben ça sera pour
qui
cet hiver, ça,
est. Mais c'est
plutôt.
plus. Voilà, ce sera plus à partir de cet automne,
Voilà,
cet
tout à fait,
hiver,
ouais.
qui est une nébuleuse que l'on voit. Une des rares nébuleuses que l'on voit en couleur.
Oui, alors avec un gros télescope, hein. Faut quand même du matos,
Oh,
hein, pour voir les couleurs.
avec le 200 mm,
Tu arrives déjà un peu de
Tu le
vert,
distingues.
peut-être.
Oui, tu le distingues.
Moi, je sais qu'avec le 500, hein, mon télescope de 500, diamètre 500, dans un très bon ciel, j'ai réussi à commencer à voir une légère teinte rougeâtre. Mais léger, hein, c'est très léger. Mais le vert, lui, est très évident, par contre. Voilà.
Donc voilà, et puis pour terminer, donc il y a toujours ce fameux rendez-vous au mois d'août, hein,
Et
vers la
oui.
mi-août, qui est la pluie d'étoiles filantes la plus célèbre, puisque
Et oui.
on en parle même à la télé. Ce sont les Perséides, hein, qui
Oui.
sont. Alors ça commence, c'est entre le 10 et le 14 août, avec un pic d'activité autour des 12-13 août. On considère qu'il y a quasiment 100 météores à l'heure
Oui.
pendant la nuit. nuit.
Mmh. Mais après, c'est comme le vin, il y a des bonnes et des mauvaises années. Hein.
Voilà, voilà, rien n'est garanti.
Oui.
Rien n'est garanti à l'avance. Et, mais au moins, il peut y avoir un très beau spectacle. Surtout que la lune n'est qu'à autour
alors, oui.
d'une cinquantaine de pourcents. C'est très important justement parce que le ciel est suffisamment peu éclairé
oui.
pour pouvoir profiter du spectacle.
Alors je
de
vois,
ce
oui,
qui va se produire.
J'avais noté que la pleine lune en juillet se produira aux alentours. Enfin, le 20, en fait, le 20 juillet. Oui, le 12, on est 8 jours avant, on sera sûrement sur un premier quartier, un truc du
oui,
style.
Oui, voilà, j'avais regardé qu'on était autour
oui.
autour de 5, entre 50 et 55%
voilà,
de
donc c'est ça.
De
et
luminosité.
En plus, comme ça sera un premier quartier, elle se couchera relativement vite.
Oui.
Et elle nous laissera toute la nuit pour observer les étoiles filantes. Sachant que, contrairement aussi à ce qu'on peut croire, c'est plutôt en deuxième partie de nuit qu'il faut les observer, plutôt qu'en début de nuit, quand la Terre est tournée du bon côté.
Voilà.
Voilà.
Donc, encore une fois, il faut,
oui.
Il faut profiter de ses vacances différemment.
Oui.
Si on veut passer une nuit blanche, on peut la passer sous les étoiles.
Tout à fait. Bah, écoute, Didier, je te remercie. Je pense que cette émission touche à sa fin. Merci d'avoir écouté l'Astromag, votre rendez-vous astronomique mensuel sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Alors, on se retrouve en septembre pour la suite de nos aventures. Passez à tous et à toutes un très bel été et de très belles observations. Merci.
Au revoir.
Au revoir.